Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Dans la nuit de mardi, des bombardements russes sur la ville de Selidové, dans l'est de l'Ukraine, ont fait 3 morts, dont une femme enceinte et un enfant. 12 personnes ont été blessées, selon les autorités locales.
Partout les mêmes scènes, partout les mêmes horreurs. À Kharkiv, Avdiivka, Bakhmout, comme à Gaza City ou Khan Younes, la guerre blesse, la guerre tue. Des militaires, mais aussi des civils. Et au milieu, des médecins, des infirmiers et des brancardiers qui tentent de sauver des vies. La guerre n'est pas un jeu, et comme le disait si bien Saint-Exupéry, la guerre n'est pas une aventure, c'est une maladie, comme le typhus. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. C'est une petite ville dans le nord-est de la France. Son église, ses maisons, sa gare, ses entrepôts. Nous sommes en juin 1918. La Première Guerre mondiale s'étire depuis près de 4 ans maintenant. Sur le front, des hommes se battent encore. Sur la place du village, accolée à l'église, une grande tente. À l'intérieur, 2 chirurgiens s'échinent devant des corps meurtris. La fatigue, le manque de moyens, les infections... La bataille fait rage aussi dans cet hôpital de campagne. Ulysse Trezer est chef de projet chez Nekon, l'éditeur du jeu War Hospital développé par un studio polonais, Brave Lamb, l'agneau courageux en français. Je lui ai demandé d'abord comment était venue l'idée de créer ce jeu.
C'est des personnes qui ont été très impliquées au niveau de la récupération d'infos. Déjà, c'est une période pour eux qui leur a beaucoup marqué. Il y a par exemple dedans le lead level designer du jeu qui par exemple fait la collection des articles de journaux de cette époque. Donc on peut même d'ailleurs en voir certains de sa propre collection à l'intérieur du jeu. En plus de vraiment de se tourner autour de la Première Guerre mondiale, c'était vraiment de sortir de cette dualité de bien contre le mal qu'on a pu souvent voir avec la Seconde Guerre mondiale ou d'autres guerres. Et surtout, tourner plus le prisme autour de directement les médecins. Et c'était vraiment le principe fondamental de ce jeu, parce que même le patron du studio, donc Michal, est un ancien soldat médical qui s'est retrouvé donc en Afghanistan pendant la guerre. Et il voulait vraiment mettre en avant ce côté de les médecins font leur travail en fait pendant la guerre. Donc la Première Guerre mondiale était le meilleur endroit pour ça. Et en plus, en mettant à travers ça, donc ce côté vraiment les médecins qui travaillent au jour le jour, donc on voit la vie des gens qui vivent la guerre en fait au jour le jour. Donc pas à travers de politiciens ou alors d'idéologie, mais vraiment à travers les yeux de personnes qui vont subir cette guerre et qui ont pour objectif eux c'est de sauver des vies. On n'est pas dans un jeu on parle souvent dans le jeu vidéo de tuer des gens, tirer sur d'autres personnes et ainsi de suite. Et là c'est un jeu où là le parti pris est tourné autour de sauver des vies et non pas en tuer.
Sauver des vies, ça, c'est vrai que c'est important. Ça tranche aussi avec les jeux souvent de guerre que l'on voit. C'est un jeu de gestion. On doit s'occuper d'un hôpital de campagne avec des difficultés à avoir certains produits pour soigner les soldats blessés et des choix difficiles à faire. Là aussi, c'était quelque chose dont vous vouliez tenir compte.
Exactement. C'était apporter ce côté vraiment difficile en fait, de la vie de tous les jours des médecins. Donc voilà, surtout en situation de guerre où les ressources sont limitées, les conflits sont perpétuels, le moral est donc à zéro. Tous ces conflits-là ne font juste intensifier en fait toutes les choses déjà qui étaient compliquées pour la vie d'un médecin, mais là, fois 1000. Et à travers ça, en fait, aussi, on voulait apporter énormément de choix auprès des joueurs. On voulait qu'en fait, les joueurs qui jouent à cette partie, déjà, il y a 4 fins possibles différentes. Ces 4 fins vont être en plus impactées par rapport au choix que les joueurs vont avoir tout le long de leur partie. Et à part ça, vraiment adapter leur façon de jouer par rapport à ses propres choix et de se rendre compte qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse face à un conflit, mais juste une adaptation nécessaire aux choses qui arrivent suite à ça.
Alors, l'équipe de Brave Lamb a travaillé avec l'Imperial War Museum à Londres pour concevoir ce jeu. Quel a été l'apport de ce musée dédié à la Première Guerre mondiale ?
Alors oui, ça s'est passé en deux temps. Donc premier temps, donc avec l'Imperial War Museum, cette relation a été déjà donc mise en place en fait de data, tout simplement des informations à donner auprès du studio, donc que ce soit des photos, donc les choses de base, hein, les costumes, les armes, les munitions, les véhicules, bien entendu après tous les outils aussi du corps médical qui ont pu être utilisés là-dedans et qui ont permis donc de créer une bible graphique déjà au point de vue du studio. Le but, c'était vraiment d'ajouter tout ce qui est possible ou pas, de mettre dans le jeu. Et en fait, suite à ça, ça sert vraiment de charte qu'on va suivre tout le long du projet pour savoir ce qu'on a le droit de mettre, ce qu'on n'a pas le droit de mettre, et ainsi éviter de prendre certaines libertés sur des choses qui sont historiques quand même. Et c'était ça le but vraiment de ce jeu, c'est qu'il soit réaliste et basé vraiment sur des faits historiques réels, et donc avec tout ce qui va autour, donc que ça soit, donc bien entendu, comme je disais, les costumes, l'armement, mais aussi des lettres. On a pu obtenir comme ça des lettres de poilus qui étaient dans les tranchées, qui envoyaient des lettres à leur famille, des lettres même de civils, et ainsi de suite. Et ça a permis en plus de créer du scénario derrière, des quêtes réalisées aussi par le joueur, qui vont être cette fois-ci des quêtes, ce qu'on va dire pas quêtes principales, mais des quêtes annexes, qui sont donc des quêtes qu'on obtient plus cette fois-ci en visitant autour du village avec des éclaireurs, qui sont une équipe qu'on peut avoir. Et en fait, on va rencontrer aussi des civils grâce à ça, et beaucoup d'histoires qu'en fait on va entendre à travers la bouche des civils dedans viennent en fait de ces lettres qu'on a pu obtenir par l'Imperial War Museum.
Ma chérie, je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. S'il te plaît, ne pleure pas. Sois forte. Le dernier assaut m'a coûté mon pied gauche et ma blessure s'est infectée. Les médecins disent qu'il ne me reste que quelques jours à vivre. Quand cette lettre te parviendra, je serai peut-être mort.
Après le deuxième temps, ça a été visite directement de l'Imperial War Museum. Donc là, c'était grandiose, c'est vraiment pouvoir voir les costumes, pouvoir en essayer quelques-uns. Ça, c'était vraiment intéressant. Voir après, pareil, tous les véhicules, les armes, et bien entendu tout ce qui était les objets médicaux à utiliser pendant quel objet utilise un hôpital entre 14-18 en conflit. Effectivement, on a l'habitude un peu du centre hospitalier actuel, mais à l'époque, on n'avait effectivement pas le même matériel, pas les mêmes technologies, et c'était des choses qui nous ont beaucoup aidés afin de comprendre les boucles de jeu, de gameplay, et de savoir comment arrive un patient donc dans un hôpital de guerre, quelles sont les premières étapes qui va passer pour après arriver jusqu'au médecin et après repartir. Et techniquement, si c'était en plus des soldats, dans le cas, nous, ça nous arrive souvent dans le jeu, c'est beaucoup de soldats qu'on doit en fait renvoyer sur le front pour tenir la ligne de front. Comment on fait pour les renvoyer là-bas et quels sont les types de blessures qu'ils ont pu rencontrer? Donc, nous, on a réussi à sortir un peu trois grands types de blessures que les soldats peuvent avoir pendant le conflit. Donc, on est arrivé avec les blessures donc type physique, balles, baïonnettes et choses comme ça. Mais on a aussi, bien entendu, les blessures type chimique, avec le gaz moutarde ou ces choses-là qui ont été déployées à l'époque. Et après, on peut arriver, bien entendu, avec les traumas, donc vraiment les chocs psychologiques. Et toutes ces choses-là nous ont permis d'être documentés par le Imperial War Museum où quels étaient les outils utilisés par ces médecins à l'époque afin de pouvoir s'occuper des patients, des soldats. Et l'objectif principal, c'était les renvoyer après au front pour tenir la ligne de front, parce que c'est quand même un conflit de 4 ans derrière des tranchées où il fallait tenir ces tranchées avec le plus d'hommes possible, où le combat se faisait vraiment par le nombre de personnes qui tenaient les tranchées.
Germans started dropping gas on our trenches. I need you to heal my man, Major, as fast as you can.
War Hospital, le jeu est sorti en début d'année sur PC et console. Au même moment, des images de guerre et de dévastation en Ukraine et au Moyen-Orient. Romain Mielkarek est journaliste indépendant, spécialiste des conflits armés et auteur de Marchand d'armes, enquête sur un business français. Il vient de lancer une chaîne YouTube, Captain Roman, pour aborder les thèmes de la guerre à travers le jeu vidéo.
Mon travail au quotidien, c'est de couvrir les conflits armés sous tous leurs aspects, donc aussi bien en allant sur le terrain, dans des pays en guerre ou en crise, qu'en faisant de l'investigation ou de l'enquête sur des sujets comme l'espionnage, comme les ventes d'armes. Et il s'avère qu'à côté de ça, eh bien, depuis toujours, je suis un amateur de jeux vidéo. Et je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de faire un lien entre ce produit culturel qui est consommé aujourd'hui par tout le monde et des sujets sur lesquels on a beaucoup de fantasmes, beaucoup d'a priori. Et donc, c'est un joli prétexte pour aborder des thématiques un petit peu plus sérieuses, un petit peu plus sensibles.
Et War Hospital raconte la lutte contre le temps et la mort d'un camp médical sur le front en 1918. Un autre studio polonais avait sorti il y a quelques années un jeu qui relatait la survie difficile de civils dans une ville en guerre. Le jeu s'appelle This War of Mine. C'est important de sensibiliser les joueurs à cette phase de la guerre peu glorifiée au cinéma ou dans les jeux.
Alors, je ne sais pas si c'est important. C'est des choix de développeurs, c'est des choix de scénaristes, c'est des choix de studios. Ce qui est évidemment intéressant, c'est d'aborder d'autres aspects de la guerre que le combat en tant que tel et d'aller sur des thématiques un petit peu plus originales. Après, je pense que l'essentiel, c'est quand même que les joueurs passent un moment agréable, passent un moment intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est des moyens d'aborder d'autres aspects de l'imaginaire du conflit armé. Effectivement, le civil qui va être pris dans le conflit ou le médecin, le soignant. Et donc, de décaler un petit peu le curseur sur ce que le public va pouvoir percevoir de la guerre ou du conflit armé. Mais c'est aussi des aspects qui sont pas toujours largement abordés dans le cinéma ou dans la littérature et où, de temps en temps, une œuvre va faire ce pas de côté pour traiter la guerre autrement.
Le personnel médical, c'est un personnel essentiel dans la guerre, au même titre finalement que l'intendance qui doit suivre.
Alors, une armée, elle est constituée d'un nombre de maillons extrêmement important, extrêmement complexe. Et effectivement, pour qu'une armée soit performante, elle a besoin que tous ces maillons y fonctionnent bien ensemble. Si on regarde du côté des combats, en fait, c'est pas juste plein de types avec des flingues, c'est des gens avec des armes, mais c'est aussi des gens qui vont faire du déminage, des gens qui vont faire des transmissions radio, des gens qui vont faire du renseignement, des gens qui vont commander, et puis donc des gens qui vont soigner, qui vont prendre en charge les blessés. Et pourquoi c'est important d'avoir ce maillon médical fonctionnel dans la chaîne? Eh bien, tout simplement parce que c'est aussi ce qui va permettre aux combattants d'être plus performants. Des travaux de militaires, des travaux de chercheurs ont montré que lorsqu'il sait qu'il va être évacué, qu'il va pouvoir être sauvé s'il est blessé, le soldat va potentiellement envisager de prendre des risques un peu plus conséquents, va être plus audacieux au combat parce qu'il sait que s'il est touché, s'il est blessé, ben il a plus de chances de s'en sortir.
Vous avez écrit, vous, sur la guerre en Afghanistan, sur la guerre au Yémen. Vous avez côtoyé les forces françaises de Barkhane dans le Sahel. En Afghanistan, plusieurs centaines de soldats français ont été blessés depuis 2011. Quels enseignements l'armée française a-t-elle tiré de cette opération militaire ?
L'Afghanistan, ça a appris à l'armée française à repenser une chaîne santé depuis l'immédiat du combat, donc avec des gens qui sont formés directement sur le terrain. Donc ça veut dire que tous les soldats ont des réflexes de base pour sécuriser, stabiliser le blessé. Et puis ça veut dire qu'on a de nouveau des médecins, des chirurgiens qui sont en première ligne. Et ensuite, il faut penser l'évacuation de ce patient stabilisé vers des hôpitaux de campagne sur le théâtre, où là, il va y avoir de premiers gestes médicaux qui vont être apportés. Et puis ensuite, une fois que ces premiers gestes ont permis de sécuriser la vie du blessé, de le rapatrier en France, où là, on va avoir des moyens médicaux plus importants pour faire des opérations plus compliquées, parfois sur des semaines, parfois sur des mois, sur certains types d'interventions médicales.
Avec comme bilan également, beaucoup de vies sauvées.
Alors les chiffres, je ne saurais pas vous les donner, il faudra demander au SSA. Ce qui est certain, c'est que par rapport à la Première Guerre mondiale ou même par rapport à des conflits comme le Vietnam, les services de santé des armées européennes et nord-américaines ont appris à faire des petits miracles en termes de prise en charge de blessés. Ils sont capables aujourd'hui de stabiliser des gens multi-amputés, brûlés, choqués de manière extrême et de les sauver. Donc ça veut dire beaucoup de gens qui sont sauvés, mais aussi du coup beaucoup de blessés graves qu'il faut apprendre à accompagner par la suite en termes de prise en charge de prothèses, en termes d'accompagnement psychologique, en termes d'accompagnement social pour assurer à ces gueules cassées contemporaines qu'elles retrouvent ensuite une place dans la société.
Ouais, justement, les séquelles, le retour à la fois à la vie parfois compliquée, hein, c'est ce que vous avez écrit dans un article de 2012 pour Slate, les gueules cassées d'Afghanistan. À cette occasion, vous avez pu aussi rencontrer des médecins, du personnel de santé. Comment est-ce qu'ils sont perçus en interne, notamment par ceux qu'ils soignent ?
Je pense, j'ai le sentiment que les médecins et les soignants du service de santé des armées ont l'image de gens professionnels, talentueux, précieux. Je suis pas sûr que le soldat se rende bien compte de la complexité, de la difficulté que c'est d'avoir un service de santé capable de faire ce que fait le SSA. Là où il y a un vrai défi, c'est que trouver des gens qui soient volontaires pour servir dans ce type de spécialité, c'est pas évident en fait. Il n'y a pas énormément de jeunes médecins qui se disent « tiens, je vais aller servir dans les forces armées », ça peut même parfois être contre-intuitif. Et donc ça demande des gens qui soient prêts à avoir cet engagement d'être en même temps des soignants, des médecins et en même temps des soldats, ce que sont quand même les médecins militaires.
Vous parliez de l'après, c'est quelque chose de compliqué justement à gérer pour l'armée. Le soldat blessé, c'est un peu quelqu'un que l'on cache ?
On les cache moins maintenant, ça a probablement été le cas à une époque. Il y avait un certain malaise, je pense, jusqu'au début des années 2010, plus parce qu'on ne savait pas comment en parler, on ne savait pas comment les présenter. Il y avait une pudeur à leur égard, pas tant parce qu'on avait honte de les montrer, mais plus parce qu'on ne voulait pas les mettre mal à l'aise, on ne voulait pas les mettre dans des situations délicates. L'Afghanistan fait qu'il y en a eu de plus en plus et qu'une partie d'entre eux ont aussi voulu être visibles, ont aussi voulu prendre la parole. Et donc, ça a probablement un petit peu décoincé les choses. Aujourd'hui, on les voit pas mal à travers le sport, à travers des tournois sportifs militaires, comme les Jeux Invictus, et à travers les Jeux Olympiques, où on a aujourd'hui beaucoup de sportifs militaires, que ce soit chez les valides ou chez les invalides. Et donc, on les voit, on en parle un peu plus. Dans un second temps, il y a eu la problématique de la blessure psychologique, qui est encore un objet un petit peu différent et d'autant plus difficile à aborder qu'il est invisible. Et pareil, cette blessure psychologique, on en parle de plus en plus, on la prend de plus en plus en compte. Ce qui est certain, c'est que pour les soldats qui sont blessés, ça pose un défi de la reconstruction qui est d'autant plus difficile que leur corps était leur outil de travail jusque-là et qu'à partir du moment où leur corps est brisé ou abîmé, eh bien, il faut trouver quoi faire, comment se réinventer, comment se redécouvrir une identité.
Les blessés de guerre ukrainiens qui ont aussi participé aux Invictus Games organisés l'an dernier à Düsseldorf aux côtés de soldats français.
Je pense que on est prêt. Bah, tu vois, ce matin, on a déjà eu une médaille de bronze. Même si la médaille, enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus important, quoi. Ce qui est important, c'est qu'on est formé une famille. Toutes les nations confondues, on est bienveillants les uns envers les autres. Il y a la famille française, mais on fait partie d'une grande famille, celle des invaincus.
Et pour soigner les invaincus, il faut aussi des soldats pas comme les autres, soignants et militaires en même temps, des gens qui peuvent sauver des vies au mépris parfois du danger. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour un deuxième épisode de la story à la rencontre d'un ancien médecin de guerre. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Merci à Ulysse Trezer de l'éditeur Nekon et à Romain Mielcarec, auteur de Marchand d'armes, enquête sur un business français.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.